Monseigneur Jean-Pierre Battu est né en 1954. Il a acquis une licence de philosophie et un CAPES d'allemand. Il a été ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Paris. Il a effectué des études de théologie, notamment à la grégorienne, comme le montrera l'anecdote sur laquelle s'ouvre son exposé. Il a été professeur de théologie dogmatique à l'école cathédrale de Paris et à la faculté Notre-Dame, ancien nom du collège des Bernardins. Il a rédigé et soutenu une thèse de doctorat en théologie et anthropologie religieuse en 1998 en co-tutelle avec l'Institut catholique de Paris et l'Université Paris IV. Il a été curé de paroisse de 2000 à 2009. Il a été consacré évêque à Lyon en 2009, à Lyon où il a été évêque auxiliaire jusqu'à 2014. Enfin, depuis 2015, il est évêque de Blois. Ses principales publications sont Dieu le Père Tout-Puissant, Paris en 1998, une version plus intégrale, si je puis dire, de sa thèse, Pantocrator, Dieu le Père Tout-Puissant dans la théologie pré-nicéenne, donc d'avant le Concile de Nicée, un volume énorme publié à l'Institut d'études augustiniennes en 2009. J'ai eu la joie de publier avec lui une petite plaquette où nous sommes en joint venture sur qui est le Dieu des chrétiens en 2011. En 2013, il publie « À partir du credo », donc un commentaire du credo, et il participe à des ouvrages collectifs sur les pères de l'Église. Sa prochaine publication portera sur l'usage de l'écriture dans « Le salut par les Juifs » de Léon Blois, issu d'un colloque tenu en 2017. Outre cela, il faut mentionner de nombreux articles, en particulier dans la revue Communio, dont il est membre du comité de rédaction. Monseigneur, vous avez la parole. Vous avez intitulé votre communication. J'avais proposé la conception chrétienne du salut. Vous avez spécifié le titre, effectivement. C'est le cas de le dire, puisque ça s'appelle « Où est la spécificité de la conception chrétienne du salut ?» Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation qui m'honore beaucoup à prendre la parole aujourd'hui devant vous sur ce thème du salut et de la spécificité de sa conception chrétienne. Le thème de cette intervention me rappelle un souvenir comique et un petit peu humiliant. Jadis étudiant en théologie à Rome, le président Braque vient de le rappeler, dans l'université pontificale grégorienne, je devais passer un examen oral sur le thème du salut et cet examen se déroulait en italien. Et après m'avoir écouté une dizaine de minutes, l'examinateur me regarde avec un sourire et me dit en français « Et maintenant, vous allez enfin me parler du salut. » « Mais je viens d'en parler, lui dis-je stupéfait. » Et lui de me répondre en riant « Non, vous m'avez parlé de la santé. » Tout au long de mon exposé, en effet, j'avais confondu le mot « salute », qui signifie la santé, avec le mot « salvezza », qui désigne en italien le salut, et j'avais employé le premier pour le second. Mais mon erreur n'était peut-être pas si catastrophique, car salut et santé ont partie liée, au point que saluer quelqu'un, cela est bien connu, est une manière de lui souhaiter une bonne santé. En première approche, on peut dire que si santé désigne un état de bien-être physique et psychique, salut connote davantage un processus, celui qui permettra précisément de conserver ou de recouvrer cet état, l'état de l'homme salus, personnifié chez les latins par la déesse Salus, celle qui assure le salut. Salut est donc, comme fides, un exemple d'un ancien terme religieux, passé ensuite dans la langue courante, puis repris dans la langue de l'Église chrétienne, qui lui a donné un nouveau sens religieux. Il n'en va pas différemment chez les Grecs. À Salous correspond Saos, d'où dérive le verbe factitif Sao, rendre saint, ainsi que Sotzo et Soteria. Sauver signifie délivrer d'une situation particulièrement périlleuse, d'un danger mortel, tel que la guerre ou les périls de la navigation, mais surtout d'une maladie en guérissant le malade, ce qui suggère que le salut n'est pas simple délivrance, mais aussi préservation et conservation. C'est en ce sens que Zeus et Athéna sont sautères et que Soteria, la déesse Salus des Latins, est une divinité tutélaire de la maison. Comme dans le latin et avant lui, les termes soter et soteria feront florès dans le grec biblique et dans la théologie pour désigner respectivement le Christ sauveur et le salut lui-même. Mais avant d'en venir à ces acceptions propres au christianisme, remarquons la grande banalité de la notion de salut prise au sens large. Malgré l'extrême diversité des formes qu'elle revêt dans les différentes traditions religieuses et culturelles, cette notion est à peu près universelle, tant il est vrai que l'homme attend en premier lieu de sa relation avec le divin qu'il lui assure une plénitude d'existence, sinon ici-bas, du moins dans l'une ou l'autre des formes d'au-delà auxquelles il espère avoir accès. À cet égard, il est possible de distinguer deux aspects fondamentaux du salut, l'un positif et l'autre négatif, que l'allemand, à la différence du français, permet de mettre en évidence. L'aspect négatif, que j'ai déjà signalé, correspond au mot allemand Erlösung et désigne la délivrance de maux matériels ou du moins temporels, tels que la maladie, les infortunes diverses, la mort elle-même, et de maux spirituels tels que le péché ou l'emprise d'un monde mauvais. L'aspect positif, qui correspond au mot allemand Heil, désigne quant à lui l'octroi d'un bien, d'un unique nécessaire, vie éternelle ou salut eschatologique, qui doit être déjà présent dans cette vie de façon incoative. Quelle que soit la manière dont on le considère, et l'ère culturelle que l'on étudie, il est clair que l'idée du salut engage une conception de la temporalité en y introduisant une rupture ou un accomplissement qui permet de se dégager de la fatalité du retour du même. C'est ainsi que la doctrine du karman, caractéristique du védisme de l'Inde ancienne, condamne l'âme à toujours subir une renaissance nouvelle dans une condition humaine ou animale déterminée par la qualité de ses actes passés, et que le salut, dans ce contexte, va consister à assigner un point d'arrêt à cette fatalité cyclique. On sait que le bouddhisme a repris à son compte la même aspiration dans sa doctrine du nirvana comme affranchissement de l'emprise du désir et du devenir. Né à peu près à la même époque que le bouddhisme en Inde, l'orphisme, qui se développera en Grèce, est lui aussi, comme ses doctrines orientales, de nature sotériologique. Pour échapper au cycle des réincarnations, l'orphisme prône, comme elle, une ascèse rigoureuse permettant de se préparer à la véritable vie. Au terme de ce survol bien trop allusif, j'en ai conscience, je voudrais relever un trait sur lequel le pape Jean-Paul II avait jadis insisté dans un de ses ouvrages. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler le pessimisme que ces courants spirituels, au demeurant fort respectables, semblent avoir en commun dans leur vision de la condition humaine. De leur point de vue, soulignait Jean-Paul II, même si ce jugement lui a été reproché, en particulier par les bouddhistes, de leur point de vue, ce monde est mauvais, il est une source de malheur et de souffrance pour l'homme. Pour se délivrer de ces maux, il convient donc de se délivrer du monde. Il faut couper nos liens avec la réalité extérieure, donc les liens que nous impose notre constitution humaine, psychique et corporelle. Au fur et à mesure de cette libération, nous devenons de plus en plus indifférents à tout ce qu'il y a dans le monde et nous nous libérons de la souffrance, c'est-à-dire du mal qui provient du monde. Fin de citation. Et Jean-Paul II concluait en soulignant qu'au contraire de cela, dans la tradition catholique, il mentionnait à titre d'exemple les mystiques rhénans ou les saints de l'école carmélitaine qu'il avait beaucoup étudié, la mystique chrétienne naît de la révélation du Dieu vivant. Que veut-on dire par ce recours à la révélation du Dieu vivant pour fonder ce que Jean-Paul II appelait la mystique chrétienne, c'est-à-dire aussi, à coup sûr, la sotériologie propre au christianisme? On veut souligner au moins, me semble-t-il, trois points fondateurs qui traversent toute l'Écriture, toute la Bible, et qui sont donc déjà propres au judaïsme. Le premier de ces points, c'est que le salut est de nature intersubjective, présupposant un sauveur qui propose de l'accueillir. Le second est que ce sauveur est lui-même convaincu que la nature humaine est sauvable et donc originairement bonne, ce qui se comprend aisément si ce même sauveur est en même temps le créateur de cette nature. Le troisième, indissociable des deux premiers, est qu'il existe un rapport étroit entre la conception biblique de Dieu et la sotériologie, la doctrine du salut. C'est ce point que je vous propose comme point de départ de cette réflexion sur le salut en perspective ontologique, après quoi je vous proposerai une deuxième perspective de réflexion. Le salut en perspective ontologique, c'est-à-dire que nous apporte le salut. Nous constatons dans l'Écriture que la première affirmation sur l'homme qu'elle nous propose est en même temps une affirmation sur Dieu. Cette affirmation, bien connue, introduit le récit biblique de la création de l'homme au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance ». Selon ce texte bien connu, l'homme est créé à l'image de Dieu, comme son icône, pourrait-on dire, dans un acte originaire antérieur à tout péché. Toute action ultérieure de Dieu en direction de l'humanité sera, selon la Bible, marquée du sceau de cette ressemblance jusqu'aux paroles adressées par le Père au Christ au moment de son baptême dans le Jourdain, « Tu es mon Fils, l'aimé, en qui je me plais », parole qui n'est d'ailleurs qu'une reprise du psaume 2. La complaisance divine qu'exprime la formule « En toi je me plais » ou « En toi je me complais » nous fait retrouver le thème de l'image. Celui à qui s'adressent ces paroles et qui, dans l'esprit du texte évangélique, personnifie Israël, celui à qui s'adressent ces paroles est en effet l'homme tel que Dieu l'a créé à l'origine et tel qu'il veut le recréer en chacun des humains, image visible du Dieu invisible, comme le dira la lettre aux Colossiens. À travers ce thème de l'image, nous constatons qu'une anthropologie précise est dans la foi chrétienne le soubassement ultime de la sotériologie. Je dis bien soubassement ultime, car antérieur à ce que certains d'entre nous ont peut-être appris au catéchisme, que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour nous sauver du péché. Si nous considérons ce que dit le grand texte normatif pour la foi chrétienne qu'est le Credo, aussi bien dans sa version plus brève, dite symbole des apôtres, que dans sa version plus développée, élaborée au Concile de Constantinople en 381, « Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel », crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion. Si nous considérons donc ce grand texte normatif, nous constatons qu'il n'est pas fait mention du péché, ni du reste de l'image de Dieu à restaurer dans l'homme. Le texte s'en tient à exposer des faits, ce qui est un trait distinctif de la théologie qui confesse des événements et non des concepts, et c'est à nous d'interpréter les faits au moyen de ce que la même théologie appelle la parole de Dieu écrite et transmise, c'est-à-dire les Écritures reçues, interprétées par une communauté vivante à travers l'histoire. Mais ces faits, cet engagement de Dieu pour nous et pour notre salut, relèvent, semble-t-il, d'une disposition irréversible de Dieu en faveur de l'homme, que un texte du Nouveau Testament, l'Épître à Tite, appelle sa philanthropie et qui le pousse à restaurer en lui, dans l'homme, ce qui a été souillé, son image, afin de pouvoir se complaire en lui sans réserve. Tu es mon Fils, l'aimé, en toi je me complais. C'est donc lui-même en quelque sorte que Dieu aime en nous, de même qu'il sème lui-même en son Fils, resplendissement de sa gloire et effigie de sa substance, dit l'Épître aux Hébreux. L'enjeu du salut dans sa conception chrétienne est donc l'image de Dieu en l'homme, ou mieux, l'homme à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme authentiquement humain. L'arrachement au péché que l'Écriture et la théologie expriment surtout comme rachat ou rédemption est certes absolument capital, mais seulement à titre de moyen. La finalité, c'est cette restauration de l'image, de telle sorte que le Père puisse à nouveau s'adresser à l'homme en utilisant les mêmes paroles par lesquelles il s'adresse au Christ. Ces paroles de complaisance supposant une véritable affinité de nature entre celui qui les prononce et celui à qui elles s'adressent. C'est ce que la christologie, la théologie du Christ, explicitera en disant que le Christ, tout en étant pleinement homme, est aussi de nature divine, et que celui qui adhère au Christ par la foi est non seulement sauvé, mais aussi divinisé, de telle sorte que le salut et la divinisation ne font qu'un. Précisons au passage que cette divinisation, au sens chrétien, ne se distingue radicalement de l'apothéose de certains grands personnages dans le paganisme antique, en ceci que la divinisation découle tout entière d'un don gracieux de Dieu. En évoquant les paroles de la Genèse, faisons l'homme à notre image, je disais qu'elles révélaient à la fois qui est l'homme et qui est Dieu. Pour le christianisme, la révélation plénière de Dieu est celle de la Trinité, ou mieux, de la triunité, Dreieinigkeit, disent les Allemands, en laquelle Dieu demeure unique tout en étant en relation entre ce que, faute de mieux, nous appelons des personnes. Saint Augustin, dans une réflexion célèbre, dit « Si l'on nous demande trois quoi, la parole humaine reste parfaitement à court, on répond bien trois personnes, mais c'est moins pour dire cela que pour ne pas rester sans rien dire. » De ce mystère, de la triunité, la foi chrétienne affirme qu'il est un mystère d'amour et qu'il existe un lien étroit entre l'affirmation de la Trinité et l'affirmation joannique « Dieu est amour ». Par conséquent, pour citer à nouveau saint Augustin, ils ne sont pas plus de trois, l'un aimant celui qui tient l'être de lui, l'autre aimant celui dont il tient l'être, et cet amour lui-même. Et si cet amour n'est pas Dieu, comment Dieu est-il charité ? Fin de citation. Cet amour mutuel permet de parler par suranalogie d'une famille trinitaire et d'affirmer que dans le Christ, nous cessons d'être des étrangers et des hôtes de passage pour devenir familiers de Dieu selon l'expression de l'Épître aux Éphésiens. Ce qui signifie que notre relation à Dieu n'est plus seulement de création, mais qu'elle est devenue une relation spécifique à chacune des personnes trinitaires. Nous sommes très réellement enfants du Père, frères ou sœurs du Christ, temple de l'Esprit. Telle est l'œuvre de salut réalisée par Dieu, œuvre d'amour paternel qui fait écrire à saint Léon le Grand, je cite, « C'est en nous aimant que Dieu restaure l'image en nous, afin de trouver en nous l'empreinte de sa tendresse, c'est-à-dire en nous donnant le pouvoir d'agir comme lui, par la lumière qui éclaire nos esprits et par l'amour qui embrase nos cœurs. » Puisque la vie humaine se déroule dans le temps, le pouvoir d'agir comme Dieu, ainsi accordé, est appelé à se déployer dans une histoire. Et c'est ce déploiement de l'image dans le temps, dans la temporalité, que les pères de l'Église, toujours en référence à Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image, c'est ce déploiement de l'image dans la temporalité que les pères de l'Église thématisent comme un passage de l'image à la ressemblance. Ceci d'ailleurs dans une infidélité exégétique au texte, puisque ressemblance atténue plutôt image dans le texte qu'il ne l'accentue. Le passage de l'image à la ressemblance dans l'esprit des pères de l'Église est un itinéraire de croissance en liberté qui réalise dans le temps une grâce accordée dans l'instant. L'homme a reçu dans sa première création la dignité de l'image, écrit Basile de Césarée, mais la ressemblance, il doit l'acquérir lui-même par ses efforts en imitant Dieu. Le salut apparaît alors comme une liberté retrouvée, la liberté d'agir à la manière de Dieu, ou plus précisément encore, la liberté d'agir en synergie avec lui, dans l'accord des volontés divines et humaines. Citons encore saint Basile, « En nous donnant cette puissance d'agir, Dieu permet que nous soyons des artisans de la ressemblance avec lui. À nous revient la récompense de notre effort. Nous ne sommes pas des portraits, des objets inertes. Pour permettre à chacun de devenir objet d'admiration, Dieu nous laisse réaliser notre ressemblance avec lui. » Tel est le salut accompli dans l'esprit de saint Basile et plus généralement de la patristique. Du salut en perspective ontologique, à savoir que nous apporte le salut, je passe maintenant au salut en perspective fonctionnelle, comment opère le salut. Je n'ai pas voulu parler en premier lieu du mécanisme du salut tel qu'ont essayé de le penser un saint Anselme, par exemple, ou un saint Thomas d'Aquin. J'ai voulu me situer résolument à un niveau ontologique et mystique en essayant d'esquisser une réponse à la question « En quoi consiste le salut que le Christ nous apporte ?» plutôt que « Comment le Christ nous sauve-t-il » Il est pourtant nécessaire de s'interroger sur ce « comment » comme ont tenté de le faire les théologies de la rédemption, les sotériologies. Sans pouvoir les passer en revue dans les limites de cet exposé, je voudrais souligner quelques éléments, trois essentiellement. Le premier élément, c'est que la croix du Christ reste la pierre d'achoppement à propos de laquelle il est impossible de se taire. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, dit Paul dans la première épître aux Corinthiens. Les deux mots, scandale et folie, n'étant pas interchangeables. Scandale a une connotation religieuse, folie une connotation pour la raison. Tout chrétien est sommé de s'expliquer devant le choix assumé par Dieu de ce moyen, à l'exclusion de tout autre, pour opérer notre salut. Les différentes variantes du docétisme représentent d'ailleurs autant de tentatives pour échapper à ce scandale, tandis que celui-ci se mue en protestation contre le christianisme tout court dans le jugement porté sur lui par d'autres religions. À titre d'exemple, citons, en plus de la protestation du judaïsme, celle de l'islam, Coran, sourate 4, versets 157-158, et de nouveau le bouddhisme. Deuxième remarque, deuxième élément, il est significatif de constater que le langage de l'Écriture procède presque exclusivement par image pour désigner le mécanisme du salut par la croix. Le propre des images est qu'aucune ne peut être absolutisée et qu'elles se corrigent les unes les autres en interagissant les unes sur les autres. L'image peut être morale ou pénale, on parlera alors de sacrifice, d'expiation, de propitiation, en référence au rituel de l'Ancien Testament, et en particulier du Kippour, par lequel les péchés sont couverts, c'est-à-dire pardonnés. Le propitiatoire, ce que la tradition théologique a appelé ainsi, et le caporet du Temple de Jérusalem, c'est-à-dire le couvercle de l'Arche d'Alliance. L'image peut être également sociale, on parlera de rachat ou de rançon, comme pour l'affranchissement d'un esclave. L'image peut être aussi politique, on parlera de réconciliation, au sens où l'on utilise ce mot pour désigner le processus qui transforme les ennemis en amis. Elle peut être juridique, on parlera alors de justification, où le seul juste ne se contente pas de plaider en faveur des injustes, mais prend sur lui la peine que leurs forfaits lui ont mérité, de telle sorte que le résultat final va bien au-delà d'un acquittement ou d'une amnistie. C'est un résultat qui transforme l'injuste en juste. L'image peut être aussi cosmique, ce sera la nouvelle création qui nous projette vers l'accomplissement final et nous fait ainsi retrouver la théologie de l'image de Dieu rendue par lui à la ressemblance qu'elle avait jadis perdue. La thématique de la nouvelle création nous permet aussi de préciser le propre de la divinisation entendue au sens chrétien. Il s'agit, si l'on peut se permettre ce néologisme, d'une filialisation, c'est-à-dire d'une entrée dans la condition filiale du Fils unique, ce qui suppose que l'esprit d'engendrement soit communiqué. Il y a en Dieu l'engendreur, l'engendré et l'engendrement lui-même. Quelle que soit la symbolique utilisée, il n'y a de salut pour l'homme que parce que Dieu l'engendre à sa propre vie. La rédemption n'est autre que le mystère filial dans son accomplissement. Aussi consiste-t-elle essentiellement dans l'effusion de l'esprit. La boucle est ainsi bouclée, si je puis dire. Le Créateur est en même temps le Père et il ne peut créer que paternellement, marquant sa création tout entière du sceau de sa paternité. Cela équivaut à dire que de même qu'il engendre le Fils dans l'Esprit, il crée le monde et l'homme par le Fils et dans l'Esprit. Cela équivaut aussi à dire que l'image qu'il imprime en l'homme est dès le principe, dès la création, l'image de son Fils, retardée par le péché de l'homme. La transfiguration du cosmos tout entier par l'Esprit de Dieu reprend ses droits lorsque ce même Esprit est exhalé par le Fils sur la croix, puis répandu comme un don communicable dans le mystère de la Pentecôte. Puisqu'il pousse le Christ crucifié aux extrémités de son amour pour le Père et pour les hommes, l'Esprit lui fait ainsi réaliser l'incarnation dans sa totale vérité. Il le fait devenir pleinement nôtre et nous fait devenir pleinement sien dans son mystère pascal, écrit un théologien de la fin du siècle dernier. Après avoir examiné rapidement le salut en perspective ontologique, puis en perspective fonctionnelle, je voudrais dans une troisième et dernière partie de mon exposé vous entretenir de ce que j'appelle la résistance du salut à sa mondanisation. Je m'expliquerai sur ce sous-titre. Tout ce que nous avons développé jusqu'ici repose sur le caractère d'altérité du salut. Il est octroyé gracieusement à l'homme et son actualisation dans chaque individu résulte d'une adhésion personnelle à celui qui l'octroie. Or, cette altérité aujourd'hui se trouve menacée de toutes parts par une culture séculière qui est la nôtre et qui mondanise le salut en choisissant de ne chercher le sens de la vie, le poids des valeurs, l'orientation des désirs, que dans leur fécondité actuelle, sans se soucier, comme en d'autres temps, de ce qu'il peut advenir de l'âme au-delà de cette vie. Autrefois, on disait « je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». Maintenant, on dirait plutôt volontiers « je n'ai qu'un corps qu'il faut sauver ». On va entretenir ce corps, on va faire du jogging, et le jour où ce corps ne sera plus fonctionnel, on cherchera à abréger ses jours. Dans cette perspective, loin que le salut apporte la divinisation comme accomplissement de l'image, l'eschatologie n'existe plus que comme prolongement de l'anthropologie. Jean-Marie Donegani, théologien belge, a résumé cette nouvelle appréhension du salut par trois traits principaux. Le premier trait est le subjectivisme, qui considère que c'est au sujet individuel de choisir ce qui lui convient en matière de croyance et de pratique. Ce subjectivisme n'est plus compatible avec une adhésion de foi à un Dieu personnel, et il s'accompagne d'une dépersonnalisation de ce qui est cru, la prière elle-même se ramenant de plus en plus à un exercice de recherche d'intériorité et de bien-être psychique individuel. Le deuxième trait est un pragmatisme des croyances, qui sont jugées à l'aune de leur utilité ici-bas et de leur capacité à donner du sens. Elles ne renvoient plus tant à un objet transcendant qu'à la construction de l'équilibre personnel des individus et d'une certaine cohérence de leur vision du monde. De ce fait, note Jean-Marie Donegani, la question du salut éternel est largement délaissée par les jeunes générations. Dans une enquête auprès des étudiants de l'Université de Louvain, seuls 2% des répondants considèrent comme prioritaire de croire en Dieu et d'être sauvés. Les items privilégiés, étant l'amour, l'harmonie avec soi-même et la liberté. Le troisième et dernier trait est le probabilisme, la foi se présentant plutôt comme une probabilité que comme une certitude. Cette posture apparaît à beaucoup comme la seule compatible avec le pluralisme de nos sociétés. On croit ainsi parce que cela nous convient, mais on sait qu'il y a d'autres types de croyances, d'autres religions, et qu'elles ne sont sans doute pas moins plausibles que la nôtre. Il n'est pas étonnant que dans cette perspective, le vieil adage catholique « hors de l'Église, point de salut » soit devenu totalement incompréhensible pour la majorité de nos contemporains quand il ne produit pas sur eux l'effet du chiffon rouge qu'on agite dans l'arène. L'ensemble de ces traits caractéristiques de la mondanisation du salut s'accommode fort bien d'une société libérale où l'unanimité religieuse a fait place à la célébration du pluralisme et à l'exaltation du consumérisme et où l'universel a les couleurs de la mondialisation, c'est-à-dire celle du marché. Le credo chrétien se termine par une attente de la résurrection des morts et de la vie future. La sortie de la religion, par contraste, concentrera l'attention sur la vie présente. Les activités économiques y gagneront une nouvelle dignité, alors qu'elles étaient jusque-là demeurées enchâssées dans la vie des communautés. L'effacement du cadre religieux leur permettra de s'organiser en système autonome et d'imposer progressivement leur logique à la société tout entière. On l'aura compris, la question du salut, individuel et collectif, n'est pas aujourd'hui une question qui intéresserait seulement les religions. Elle est au centre de l'identité morale, spirituelle de nos sociétés libérales et sécularisées. Parce que, même hors de toute référence à une révélation transcendante, même dans le cadre du pluralisme moral qui signe la donne séculière, il n'est pas possible de délaisser la question du télos humain et de ne pas s'interroger sur les voies du salut de chaque être humain et de l'humanité. Mais si cette affirmation est vraie, si l'homme ne peut échapper à la question du salut parce qu'il ne peut échapper à la question du télos, il est également nécessaire de se demander si la mondanisation du salut ne représente pas le plus redoutable des dangers. Les totalitarismes du XXe siècle n'étaient peut-être qu'un avant-goût de ce que préparent à l'humanité les gnoses du XXIe. Devant les tentations récurrentes de prise de pouvoir sur les consciences ou d'autodestruction de la liberté, l'annonce d'un salut transcendant demeurera toujours salutaire. Je vous remercie.
Grand merci pour cet exposé qui avait bien des mérites. Celui de la brièveté n'étant pas le moindre, nous allons pouvoir avoir du temps pour... pour discuter de tout cela. Alors, il y a des questions, il y en a au moins deux, maintenant trois. Je crois que Chantal Delsol a demandé la parole la première. Ensuite, nous aurons le rabbin Corsia, Alain Besançon, Jacques de la Rosière et peut-être d'autres. Oui, Chantal, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce bel exposé. Je voulais poser une question qui peut paraître, disons, un petit peu à côté du sujet, mais qui, je crois, ne l'est pas. Enfin, vous allez me le dire. L'idée de l'enfer a récemment beaucoup changé. Je n'ai pas lu de meilleure analyse à ce sujet que celle d'Alain Besançon, notre confrère qui est là et auquel j'ai demandé la permission de citer avant. Il écrit dans Contagion un chapitre qui s'appelle « Nouvelle démographie de l'enfer ». Ça peut paraître ironique ou humoristique, mais je crois que ça ne l'est pas. Il est là, donc... Que veut dire cette expression « nouvelle démographie de l'enfer » dans la postmodernité individualiste, autrement dit depuis à peu près un demi-siècle, ce n'est plus la décision du juge ultime qui peut me jeter en enfer, mais c'est ma propre décision. Ce qu'on a tendance à appeler, si j'ai bien compris, mais vous allez me corriger, père, mon aversion volontaire de Dieu. C'est cette expression qui apparemment est utilisée. Si on veut dire cela de façon, disons, avec le vocabulaire de l'époque, on dirait l'enfer si je veux. D'où un enfer plus ou moins vide, au moins dans la perception de nos contemporains. L'enfer existe, mais il est vide. C'est ce qu'on dit. Alors, la question, c'est est-ce que c'est là l'expression carrément d'un changement dogmatique? Ou bien est-ce que c'est l'expression du simple subjectivisme dont vous venez à l'instant de parler? Donc ce serait quelque chose de tout à fait hérétique vis-à-vis de la théologie. Et quel est le rapport de cela avec la conception du salut? Je vous remercie.
Je ne sais pas si l'idée de l'enfer a beaucoup changé, mais je crois savoir que le débat sur l'enfer et sur le nombre des damnés est aussi ancien que la théologie, puisque dès l'époque patristique, nous voyons s'affronter l'opinion d'Origène, selon qui l'enfer est très peu peuplé et on le sait, et l'opinion plus tardive d'Augustin, selon qui l'enfer est très peuplé et on le sait. La difficulté étant dans le « on le sait ». Car que sait-on de l'enfer? La seule chose que l'on sache de l'enfer, au regard des textes scripturaires, c'est sa possibilité, c'est-à-dire la possibilité pour la liberté humaine d'aller jusqu'à un refus définitif, ce que vous appelez, madame, l'enfer si je veux. C'est donc effectivement ma propre décision qui peut me jeter en enfer. Ce qui préside à des positions aussi opposées que celles d'Augustin et d'Origène sur l'enfer, c'est la question de l'extensivité du salut. Comment interpréter la solidarité que le Christ a manifestée sur la croix avec l'ensemble de l'humanité, faut-il l'interpréter comme une solidarité qui inclut un rachat possible pour ceux qui auraient persisté dans le refus, ce qui paraît difficile, car ce serait une négation au final de la possibilité de la liberté de l'homme de nier Dieu, ou bien faut-il se tourner vers les décrets insondables de Dieu qui conduisent finalement Augustin à l'idée de prédestination entendue en un sens qui annonce des dérives ultérieures, à savoir Dieu déterminant par avance dans le décret insondable de sa toute-puissance qui sera sauvé et qui sera damné. Ce qui caractérise notre époque, c'est moins ce débat entre Augustin et Origène que l'idée de ce que le théologien Bonhoeffer appelait un salut à bon marché, à savoir cette idée qu'en définitive, l'homme n'est pas infiniment méchant et Dieu est infiniment bon, et par conséquent, le résultat de ce sophisme, de ce raisonnement sophistique, c'est de dire que puisqu'il n'y a pas proportion entre la méchanceté de l'homme et la bonté de Dieu, tout le monde est sauvé. Jamais la théologie n'a affirmé une chose pareille. La citation implicite que vous faisiez de l'abbé Bremond, à savoir « l'enfer existe mais il est vide », cette citation n'a jamais été, cette idée n'a jamais été reprise par l'enseignement officiel de l'Église. En revanche, ce à quoi l'Église a toujours tenu, c'est à ne jamais se prononcer sur la damnation de qui que ce soit, alors que depuis une époque très reculée, sinon depuis les origines, savoir depuis les premiers martyrs, la proclamation de la sainteté d'un disciple du Christ a été fréquente, la canonisation, comme on l'appelle aujourd'hui. Jamais l'Église ne s'est prononcée sur la damnation de qui que ce soit. Et donc il y a deux attitudes très différentes, et l'attitude en face de l'enfer est d'une grande prudence. Néanmoins, l'affirmation de sa possibilité a toujours été tenue.
Bien. Raïm Corsia.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monseigneur, merci. Vous savez l'attachement que j'ai à votre personne et au poste que vous occupez. Puisque il se trouve que c'est, puisqu'on parle de sauver, vous êtes la communauté qu'on a fait renaître après une longue histoire compliquée à Blois. Je n'étais pas complètement en harmonie avec cette idée de sauver, parce que non, c'est dangereux. Si on parle de sauver, c'est qu'il y a une majorité de non-sauvés et qu'on sauve quelque chose, un peu comme un rameau est sauvé de l'arbre de Jessé. Or, le Talmud dit, un peu à l'image de votre bon père, tout le monde a part au monde futur. Sauf. Alors, il y a toujours une liste plus ou moins longue. Mais le principe, c'est tout le monde. Puisque chacun a une âme issue de Dieu, certes, elle doit expier quelque faute, mais au fond, elle ne peut pas être ailleurs que dans la présence de Dieu, puisqu'elle est une part de Dieu. Donc c'est bien la majorité, l'immense majorité qui est sauvée, je reprends votre terminologie, hein. Ce n'est pas forcément celle que j'emploierai dans le judaïsme, mais... Et juste parler de ce concept de sauver, ça veut dire que c'est l'infime minorité. Or, dans le judaïsme, c'est peut-être la véritable rupture avec le catholicisme, parce que je n'étais pas protestant, vous avez dit tout à l'heure, le judaïsme a protesté. Non, c'est simplement sur la notion de grâce que nous allons peut-être et encore peut-être nous opposer, à savoir que dans le christianisme, c'est plutôt un acte arbitraire, volontaire de Dieu, lui et pas lui. Et dans le judaïsme, c'est toujours l'action d'une personne qui détermine la réponse de Dieu. Ce que vous avez très joliment dit à propos de Kippour, le repentir, ce qu'on appelle la teshuva en hébreu, c'est un retour à Dieu. Et donc, cette notion, ce que vous appelleriez dans vos termes théologiques, la conversion. La conversion, qui est le retour, en fait, à l'état premier, l'état nominal. Et donc, il y a quand même une différence. C'est que ce sont les bonnes actions, c'est-à-dire la façon qu'on a de se comporter avec les autres, qui détermine, je ne vais pas vous dire le sauvetage ou pas, la place qu'on aura, appelons ça comme ça, symboliquement, le paradis. Et donc, on n'a plus la question que vous posiez, qui est une vraie question que Chantal avait si justement décrite en disant « l'enfer, j'ai envie ». Personne ne dit ça. On peut dire « peu manchot, j'ai pas d'importance ». On peut dire « l'enfer et le paradis, c'est sur terre, je ne crois pas à ce qu'il y a après ». Mais personne ne dit, moi, je veux faire l'enfer. Je veux vivre l'enfer. Personne. Parce que même le méchant a tendance à justifier ses actions les plus horribles. Donc, cette question, si vous voulez, théologiquement, ne se pose que pour celui qui dit, moi, j'ai fait le mal, je l'assume, et peu m'importe les suites et les conséquences. Mais je ne crois pas, en tout cas, qu'on va trouver quelqu'un, quelle que soit la religion, qui va revendiquer la volonté d'aller en enfer. Et donc, on arrive à cette rupture, peut-être, y compris d'ailleurs avec le monde protestant, des bonnes actions qui déterminent notre place. Et donc, on va avoir des gens avec une foi qu'on pourrait qualifier, disons entre nous, de chancelante, ou en tout cas de questionnante, mais dont les bonnes actions envers les autres traduisent le verset du Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », et dans la relation aux autres, ils sont tellement dans la proximité, l'interaction, que finalement leur place au paradis est assurée bien mieux qu'un rabbin ou un prêtre, ou un pasteur ou un imam qui prierait toute la journée, mais qui se désintéresserait des autres. Et donc, sauver, si déjà vous employez, il faudrait poser la question à notre bon président, c'est lui qui a choisi le thème de sauver. Qui dit sauver, dit une minorité par nature, si je puis me permettre, cher président.
Merci beaucoup. Je vois au moins trois questions dans votre question, ou trois sujets. Il me semble, en ce qui concerne votre réticence à utiliser le terme « sauver », il me semble que ce que nous apprend finalement la Bible, c'est que d'une certaine façon, le salut est aussi originaire que la création elle-même. Et que par conséquent, cette dichotomie entre création et salut, quand on y regarde de près, n'existe pas. N'existe pas. La création est elle-même le premier acte de salut de Dieu, pourrais-je dire, en forçant quelque peu le trait. Néanmoins, et j'aborde le deuxième point que je relève dans votre remarque. Néanmoins, pour que ce salut contemporain de la création devienne effectif, il faut une réponse de la part de ceux qui ont ainsi été suscités dans l'être par Dieu. Et cette réponse, dans la théologie chrétienne, ou du moins catholique, elle est exprimée en termes d'élévation de la nature, créée. Qu'il s'agisse de la nature humaine ou de la nature angélique, car les anges eux-mêmes sont appelés à une réponse de liberté à la création de Dieu, de telle sorte que ce que vous appelez les bonnes actions, c'est-à-dire l'engagement positif de la liberté, puisse être sollicité pour que la communion avec Dieu soit totale et que la créature arrive à son accomplissement. Et cette nécessité est universelle. Dans les Écritures chrétiennes, c'est particulièrement souligné au chapitre 25 de Matthieu, dans ce qui est convenu d'appeler la parabole du jugement dernier, mais en fait il y a trois paraboles. Il y a la parabole des vierges sages et des vierges folles, la parabole des talents et la parabole dite du jugement dernier. Et la différence entre les deux premières paraboles et la troisième, c'est que dans les deux premières, les vierges sages et les vierges folles qui attendent l'époux, et la parabole des talents où on attend le retour de celui qui a confié une somme à faire fructifier, on attend quelqu'un, on sait très bien qui on attend. Donc c'est une parabole qui vise ceux qui attendent la venue ou le retour de celui qui leur a remis un salut à faire fructifier. Tandis que dans la troisième parabole, dite du jugement dernier, ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'on n'attend personne. On n'a attendu personne, puisque le Christ se présente à l'ensemble des nations, ce qui dans la Bible désigne tous ceux qui ne font pas partie du peuple élu, et il leur dit « Venez les bénis de mon Père, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu, malade, en prison et vous m'avez visité. » Et ils sont stupéfaits, ils disent « Quand avons-nous vu ?» Et la réponse est alors, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si bien que ce que vous appelez les bonnes actions, les actions en direction du prochain, ce prochain dans lequel Dieu se manifeste, sont le critère ultime qui vise non seulement les nations qui n'ont pas connu le Sauveur, mais finalement l'humanité tout entière, pour qu'elle obtienne ce salut. Et puis, le troisième point que j'ai relevé dans votre intervention, c'est la question, peut-on vouloir l'enfer ? En fait, il me semble que non, on ne peut pas vouloir l'enfer, mais ce n'est pas de l'enfer qu'il est question, en fait. C'est derrière la notion d'enfer, l'accomplissement de cette relation intersubjective entre Dieu et sa créature. La question est de savoir si la créature accepte l'offre que ce Dieu lui présente, lui fait, de la communion avec lui. Voilà. La question de l'enfer n'est que la conséquence éventuelle, possible, de ce refus de l'offre intersubjective que Dieu présente à sa créature. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet.
Merci. C'est au tour d'Alain Besançon, puis Jacques Delarosière, enfin Michel Pébreau. Micro, Alain.
Enchanté de ce que vous nous avez exposé. Et je voudrais réagir à cette idée de modernisation du salut. Et comme un exemple de modernisation du salut, je vois une confusion contemporaine de la charité, dans laquelle l'homme aime l'homme parce que Dieu l'aime, ce qui permet de ce point de vue d'aimer son ennemi, parce que Dieu aime aussi l'ennemi de l'homme. Et confondre donc la charité avec l'humanitaire, qui a été défini magnifiquement par Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile, dans lequel l'homme aime l'homme parce que il est un homme comme lui. Et le développement de l'humanitaire au XXe siècle, au XIXe et peut-être au tout temps, est un oubli de la charité, puisqu'il permet de haïr le prochain au nom d'une idée abstraite de l'humanité. Et ça, c'était très épanoui au XXe siècle, avec les grandes catastrophes du nazisme et du communisme.
Je vous remercie pour cette question qui n'en est pas une, qui est une mise au point tout à fait salutaire, et à laquelle je ne peux que me rallier. L'humanitaire est en effet une des modalités de ce que j'ai appelé la mondanisation du salut, mais j'ai un peu de mal à comprendre votre réticence à ce terme de mondanisation du salut. Ce n'est pas le terme lui-même qui vous fait difficulté ici.
Excusez-moi, mais la mondanisation m'apparaît très bien, oui, mais...
Vous convient, le terme vous convient.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Et la distinction que vous faites entre charité et humanitaire me convient également tout à fait. Le propre de la charité, c'est en effet d'aimer l'homme comme image de Dieu, en sachant que cette image de Dieu, si obscurcie qu'elle puisse être, si opacifiée qu'elle puisse être, demeure même dans l'ennemi, et que le devoir d'aimer l'ennemi, l'appel à aimer l'ennemi, fait partie de la charité. D'ailleurs, un texte de Paul nous dit que nous avons été aimés alors que nous étions encore ennemis, et que cet ennemi de Dieu, sous-entendu, et que cet amour dont nous avons été aimés a rendu possible notre transformation d'ennemi en ami. Et donc, il ne s'agit pas simplement de l'amour du semblable, mais il s'agit de l'amour de Dieu présent dans l'autre humain qui va faire que aucune limite ne pourra être assignée à ce devoir d'aimer. Une des confusions aussi propres à la mondanisation du salut ou à la, aux mentalités actuelles, c'est que l'amour est confondu avec un sentiment, alors que dans l'écriture, l'amour est d'abord une décision. Et cette décision se traduit par des actes concrets, quels que soient les sentiments spontanés qui puissent m'animer envers un autre qui, que j'aime ou que je n'aime pas spontanément, mais que je suis tenu d'aimer malgré tout.
Merci. Jacques de la Rosière.
Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié cet exposé. Je voudrais résumer ma pensée de la manière suivante. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, si l'homme est libre de sa destinée, si le Christ est venu racheter le péché de l'humanité, on ne peut, me semble-t-il, que admettre la thèse que vous avez développée et qui est celle de l'enseignement de l'Église. C'est-à-dire que le salut est individuel. Le salut s'adresse à celui qui a redressé ses erreurs, qui a combattu le péché, qui s'est converti en fait au message du Christ. Et vous avez raison dans cette conception de souligner que la notion d'une globalisation, d'un salut collectif généralisé n'a pas de sens parce qu'elle elle fait fi de tous les présupposés que j'ai rappelés. Et je pense que vous avez profondément raison sur ce sujet. Mais deux inquiétudes me viennent. La première, c'est qu'est-ce qui se passe pour tous les hommes qui ont précédé le Christ ? Parce que le Christ est arrivé à un point précis de la chronologie historique. Mais les millions de gens qui vivaient avant, ils ne connaissaient pas le message du Christ. Ils ne pouvaient pas se convertir comme vous nous le demandez à juste titre aujourd'hui. Alors ceux-là, j'aimerais que vous commentiez un peu leur destinée, ainsi que tous les hommes qui, à cause de la géographie, n'ont pas aujourd'hui encore connu le Christ, peuvent être les détenteurs d'une religion, mais peuvent aussi ne pas l'être. Mais ceux-là aussi, on ne peut pas leur demander le salut individuel tel que nous l'avons défini. Ou alors il faut avoir une réponse sur la nature de leur destinée future, c'est-à-dire en fait la nature de l'enfer, si je veux simplifier la notion, qui risque de les atteindre. Alors voilà ce que je voulais dire.
Je vous remercie. Là aussi, vous soulevez une question qui est aussi ancienne que l'Église, aussi ancienne que le christianisme, et certainement antérieure à lui, la question de la manière dont le salut peut rejoindre l'ensemble de l'humanité à partir du constat que seule une partie de cette humanité est destinataire, ou du moins est capable d'entendre son annonce, sa proclamation. Il me semble que cela rejoint en partie le thème de l'élection dans le judaïsme en particulier. Comment se fait-il que Dieu ait choisi une portion de l'humanité, une portion très modeste de l'humanité, numériquement du moins, et n'ait pas choisi l'ensemble de l'humanité dès le départ ? La réponse, je crois, de beaucoup de traditions juives, sinon de la tradition juive dans l'absolu, c'est de dire que Israël a mystérieusement une mission à l'égard de l'humanité tout entière et que son élection vise un salut qui se communiquera à l'ensemble de l'humanité. Pour ce qui est du salut dans le Christ, les premiers chrétiens se sont posé la question de manière diachronique, c'est-à-dire comme le Nouveau Testament, les épîtres de Paul en particulier, répètent, surtout les plus anciennes de ces épîtres, que nous sommes à la fin des temps et que le retour est proche, la venue du Christ est proche. La question qui surgit spontanément est pourquoi est-il venu si tard ? Et qu'en est-il de tous ceux qui sont nés dans le monde et qui ont vécu et qui sont morts avant sa venue ? C'est dans cette perspective diachronique que se pose la question. Et puis, à notre époque, la perspective serait plutôt synchronique. Comment se fait-il que tant de portions de l'humanité soient dans d'autres cultures, dans d'autres perspectives, et comment ces différentes approches que nous expérimentons aujourd'hui dans chacun de nos pays, puisque nos sociétés sont pluralistes, comment ces différentes approches concordent-elles, se rejoignent-elles ultimement dans l'accueil du salut ? La réponse qui a été donnée depuis très longtemps est cet événement très mystérieux qu'ils appellent la descente aux enfers. La descente au séjour des morts, il s'agit des enfers et non pas de l'enfer, il s'agit de l'Hadès, il s'agit du Shéol de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'acte par lequel, dans sa mort, le Christ rejoint mystérieusement tout être humain dans le mystère de sa propre mort. Voilà, on peut songer à ces icônes orientales, dites de la résurrection d'ailleurs, où l'on voit le Christ fracassant les portes du séjour des morts qui sont à ses pieds et tendant la main au premier homme et à la première femme, la première femme ayant d'ailleurs la main droite couverte d'un linge puisque c'est la main avec laquelle elle a cueilli le fruit dans le jardin de la Genèse, et le Christ les appelle à sortir et à rejoindre le salut, finalement. Et le père de Lubac, cher à votre cœur, avait exhumé un texte absolument magnifique du pseudo-Épiphane qui traduit sous la forme d'un récit cette vision de la descente aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts. Et la méditation peut-être la plus récente sur cette portée universelle du salut, c'est peut-être au dernier concile de l'Église catholique que nous la devons, au concile Vatican II, qui dans sa méditation de la constitution Gaudium et Spes sur l'Église au monde de ce temps, au numéro 22, pose une affirmation très, très, très catégorique, surtout pour un concile qui n'a pas voulu donner de définition dogmatique, et que je cite de mémoire, « Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une manière que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. » Voilà, nous devons tenir, c'est une affirmation assez, assez massive, que la possibilité est donnée à tout être humain d'être associé à ce qui s'est passé dans les trois jours de la croix et de la résurrection, c'est-à-dire finalement de rencontrer le Christ dans son acte de salut. Et cette rencontre, il n'est pas interdit de penser qu'elle coïncide avec ce qu'on appelle traditionnellement le jugement particulier, c'est-à-dire la rencontre de chaque personne humaine avec le Christ dans l'acte de sa mort. Voilà, voilà ce que je peux tenter de répondre à la belle question que vous soulevez.
Merci. Michel Pébreau.
Oui, une question très, sommaire. Comment concilier cette vision du salut avec les crimes suprêmes, c'est-à-dire le génocide qu'a évoqué Alain Besançon et le crime contre un enfant. la loi des hommes a fini par traiter ces problèmes. Alors, la loi de Dieu est-elle susceptible d'aider à leur traitement ?
C'est une très belle question dont je vous remercie en vous demandant pardon de vous tourner le dos pour vous répondre. Je pense que nous sommes dans une époque qui a une conscience plus vive que d'autres du fait qu'il y a de l'impardonnable. Il y a de l'impardonnable et cette conscience plus vive nous vient certainement en grande partie des drames du siècle précédent qui malheureusement se prolongent dans d'autres drames en notre siècle. Et la question se pose avec acuité devant cet impardonnable de savoir si l'attitude de Dieu fait exception et à ce titre soupçonnable de faiblesse ou de compromission avec le mal, osons pousser l'objection jusque-là, ou bien si Dieu considère aussi qu'il y a d'impardonnable. Eh bien, je pense que paradoxalement, Dieu considère qu'il y a de l'impardonnable et que cependant, Dieu pardonne. Pour quelle raison ? Parce que le pardon selon Dieu n'est pas le pardon selon nos catégories humaines. Nous avons tendance à rapprocher le pardon de l'amnistie, car lorsque nous pardonnons ou essayons de le faire, nous savons bien que même si ce pardon peut avoir une certaine puissance transformante dans celui qui le reçoit, et aussi peut-être dans celui qui le donne d'ailleurs, néanmoins ce pardon n'efface pas la faute et ne métamorphose pas le pécheur ou le criminel. Or, l'annonce du salut est celle d'un pardon qui littéralement métamorphose ceux qui en font l'objet. J'en veux pour illustration ce psaume que les évangiles nous rapportent que Jésus a commencé à prononcer sur la croix, le psaume 21 ou 22 selon la numérotation. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On le reste souvent au premier verset, mais ce psaume, en fait, il y a un retournement dans le psaume à partir du moment où Dieu répond à la prière de celui qui prie. Et le propre de ce retournement, c'est que les bêtes féroces, puisque les bourreaux qui mettaient à mort celui qui prie sont comparés à des bêtes féroces, des lions me cernent, des taureaux de Bassan m'encerclent, voilà. Les bêtes féroces deviennent les frères dans l'assemblée. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te proclamerai en pleine assemblée. C'est-à-dire que ce prodige de la transformation intérieure du bourreau en frère s'est produit. Alors vous allez me dire, c'est très beau, mais encore faut-il le croire, bien sûr. Mais je pense que si, pour ceux qui croient à la rédemption par la croix, leur foi en la rédemption par la croix ne va pas jusque-là, eh bien, elle n'honore pas cette création nouvelle dont il est question sous la plume de saint Paul. Voilà ce que je peux répondre, ou essayer de répondre du moins à une question qui toujours demeure.
Merci. Marianne Bastide-Bruguière.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aurais une question. J'aimerais savoir comment vous interprétez ou comprenez la doctrine calviniste de la prédestination, sauf à dire que c'est une hérésie. Mais comment se peut-il que dans la réflexion chrétienne, on ait pu concevoir cette idée ?
Merci. Je ne peux pas parler à la place de Calvin. Ce que je peux dire, c'est qu'à ma connaissance, les réformés aujourd'hui ne reprennent pas à leur compte cet enseignement de Calvin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une doctrine qui, pour hérétique qu'elle soit, a une origine augustinienne. Et donc, Augustin, non seulement n'est pas un hérétique, mais c'est un docteur de l'Église, et même plus encore un père de l'Église, qui dit mieux. Voilà. Cette origine augustinienne tient, me semble-t-il, au fait que Augustin a toujours eu du mal à penser ensemble la toute-puissance de Dieu et la liberté de l'homme. Et que il n'est jamais arrivé à concilier ces deux dimensions, ce qui fait que pour lui, ce serait en quelque sorte attentatoire à la toute-puissance de Dieu que de dire que finalement, le salut ou la damnation de quelqu'un ne découle pas de cette toute-puissance. Ça mériterait des approfondissements. Je n'ai pas suffisamment étudié la pensée de saint Augustin pour vous en livrer un résumé. Mais je pense que c'est un conflit vraiment intellectuel, une rationalité qui se prend à son propre jeu et qui finit par dire des choses qui nous paraissent à juste titre inadmissibles. La fameuse massa damnata, la masse damnée, parce qu'en plus, non seulement Dieu décide, mais Dieu décide dans les grandes largeurs. Voilà, il n'est pas chiche dans sa décision de peupler l'enfer. Et je pense que l'origine est intellectuelle, comme d'ailleurs c'est le cas de la plupart des hérésies. Qu'est-ce qui définit une hérésie, finalement? C'est un conflit non résolu entre une rationalité qui tient beaucoup à elle-même et qui tient beaucoup à sa propre démarche et le donné de la foi qui devrait normalement l'aborder, la normer, et qui finit par être relégué dans un coin. Voilà ce que je peux dire en demandant pardon de ne pas pouvoir être plus précis sur saint Augustin.
Je vous remercie beaucoup.
Merci, je remercie également. Monsieur Vito. Oui, Pedro, c'est fait.
Voilà. Non, moi je vais vous parler justement en tant que membre de l'Église réformée. J'ai été très surpris dans votre remarquable propos que vous n'employiez que très peu ou exceptionnellement, voire pas du tout, le mot de grâce qui me semble indissociable du salut.
Je vous remercie, c'est certainement une grande faiblesse de mon propos, en effet, de ne pas l'avoir employé. J'espère au moins l'avoir sous-entendu.
Oui, oui.
Jean-Claude Trichet.
Merci, Monsieur le Président. Monseigneur, votre exposé était absolument remarquable. Je voudrais vous poser une question qui est à la fois peut-être naïve d'un côté et trop audacieuse de l'autre. Est-ce que vous pouvez commenter sous l'angle du salut le retour du Christ à la fin des temps, le retour du Messie ? J'ai eu la surprise en discutant avec des amis américains protestants de voir qu'ils croyaient vraiment très profondément, que ça faisait partie de leur doctrine fondamentale, au retour à la fin des temps du Christ, avec toutes sortes de conséquences, la rapture, l'enlèvement des uns et des autres. Comment faut-il percevoir cette croyance du point de vue catholique? Je note aussi que le retour du Messie chrétien pourrait coïncider avec l'arrivée du Messie juif, et j'ai noté que certaines interprétations musulmanes imaginaient même certaines doctrines imaginaient l'arrivée ou le retour du prophète Christ dans la conception musulmane, à la fin des temps, toujours à la fin des temps. Donc, ceci est assez extraordinaire, d'ailleurs, et donc j'aurais bien aimé avoir votre propre vision, clé de lecture, pour mieux comprendre à la fois certains protestants, notamment les évangélistes, à vrai dire, qui sont très, très croyants en cette idée du retour du Christ et de la rapture, de l'enlèvement, et les autres allusions que j'ai faites à d'autres religions. Comment doit-on interpréter tout ça ?
Merci beaucoup. La première chose à souligner, c'est la notion de fin des temps, me semble-t-il, qui découle d'une vision historique. L'histoire n'est pas cyclique, elle est orientée, elle a eu un commencement, elle aura un terme, ce terme qu'il est convenu d'appeler la fin des temps. Beaucoup de religions se rejoignent dans cette affirmation. Vous avez cité l'islam, vous avez cité le judaïsme. Je crois que nous nous rejoignons tout à fait dans cette affirmation. Ce qui est plus particulier au christianisme, me semble-t-il, c'est de dire que la fin des temps est déjà inaugurée par le mystère pascal, et que ce qui adviendra lorsque l'histoire se conclura sera, d'une certaine façon, le fait de prendre acte de ce qui est déjà advenu. Il n'y a rien à ajouter au temps. Le temps est accompli parce que dans le temps s'est déroulée l'œuvre du Christ. La seule chose qui a ajouté au temps, c'est chacune de nos personnes. Et il plaît à Dieu que chacune de nos personnes puisse, dans la temporalité qui est la sienne, s'insérer dans cet accomplissement du temps. C'est la raison pour laquelle, je crois, la tradition chrétienne la plus authentique parle davantage de la venue du Christ que de son retour. Alors je sais bien que dans le credo, on dit « et iterum venturus est », il reviendra. Mais le langage du Nouveau Testament est quand même massivement le langage de la venue. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il vient. Et c'est-à-dire que nous sommes dans un processus qui est en train de s'accomplir. Et la seule différence entre ce processus et la fin des temps, c'est que la fin des temps sera l'accomplissement plénier de ce processus avec le jugement dernier, qui n'est autre que la dimension universelle du jugement particulier, c'est-à-dire de la rencontre de chaque personne humaine avec le salut étant quelqu'un et non pas quelque chose. Quant à la convergence entre l'attente chrétienne et l'attente juive, je rejoins tout à fait ce que vous en avez dit, puisque dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, où saint Paul s'intéresse de très près à la question d'Israël, il affirme que la réunion de l'Église chrétienne et d'Israël sera Zoé et Knekron, une vie hors de la mort, une résurrection d'entre les morts. Et donc, il semble bien que ce soit à cet événement que saint Paul se réfère. Voilà. Je connais moins ou pas du tout la tradition musulmane en la matière, mais je crois me souvenir qu'une sourate du Coran, M. Bragg me rectifiera s'il le faut, qu'une sourate du Coran affirme qu'à la fin des temps, Mahomet sera très haut placé, mais que Jésus sera placé plus haut encore. Je ne sais pas. Mais...
J'en parlerai.
Voilà. Je ne m'aventurerai pas plus loin là-dedans. En tout cas, ce qui me paraît essentiel, c'est l'idée, du point de vue chrétien, c'est l'idée que la fin des temps est déjà une réalité présente et que, pour cette raison, on parle de la venue du Christ plutôt que de son retour.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Raïm, à nouveau.
Oui, merci, cher président. Monseigneur, là, je vous un peu faire un petit manifester un point de désaccord. Parce que dire, puisque tout vient de Dieu, alors même être sauvé vient de Dieu, c'est oblitérer complètement le libre arbitre humain. Alors, je ne veux pas transposer dans le catholicisme ce qu'on appellerait chez nous le tsimtsum, la contraction de Dieu pour laisser l'homme être ce qu'il est. Mais quand même, quand Paul, dont vous parliez maintenant, et là je fais de l'exégèse catholique, enfin chrétien, quand Paul dit en citant le verset 4 du chapitre 2 d'Habacouc, et le juste par la foi vivra, je ne dis pas que c'est mon interprétation, c'est comme ça que Paul l'interprète. Moi, je l'interprète différemment. Mais Paul dit, c'est le salut par la loi qui a échoué. Donc, il y avait un salut proposé qui était celui de la loi. Paul dit, puisque Habacuc dit, le juste par la foi vivra, c'est donc la foi, en l'occurrence pour Paul, en Jésus, qui sauve. Et donc, on voit bien que ce n'est pas Dieu qui donne ça, puisque c'est l'homme qui doit avoir cette foi. Donc, même si vous ne revenez pas à ma théorie de tout à l'heure, qui vous permet d'ailleurs de faire ce top 50 des sauveurs, où on voit que Mahomet est en dessous de Jésus, donc ça va, comme Jésus est juif, moi je me sens concerné. Et honnêtement, même si on ne tient pas à ma théorie des bonnes actions qui sauvent, vous voyez qu'il y a au moins l'engagement dans la foi qui oblige donc l'homme à faire quelque chose et à ne pas dépendre complètement de la toute-puissance de Dieu.
Oui, il me semble que...
D'être votre avocat, oui, vous aviez parlé de la grâce, parce que j'avais même trouvé qu'il y avait une différence entre la grâce juive et la grâce chrétienne. Donc vous en aviez bien parlé.
Merci, monsieur le rabbin. Il me semble que nous touchons là un point très délicat dans nos deux théologies, pour autant qu'il y en ait deux, parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus. Mais... Jusqu'à quel point s'agit-il d'une véritable divergence ? Ne s'agit-il pas d'accents différents que nous mettons ? Car effectivement, chez nous chrétiens, ce que vous évoquez là me paraît correspondre au vieux débat sur la grâce et le mérite. Débat qui a rebondi au XVIe siècle avec les réformateurs et auquel les catholiques ont répondu de façon très appuyée en affirmant la capacité de mériter de la part de l'homme, mais en soulignant que la capacité de mériter était elle-même une grâce et que, au bout du compte, le summum de la grâce est finalement d'accepter de la part de Dieu que ce qu'il va donner dépende de l'homme qui le reçoit, de l'homme à qui cela est destiné. Voilà. Donc je ne suis pas si sûr que nous soyons en désaccord.
Denis Kessler.
Oui, merci Monseigneur pour cet exposé qui donne à beaucoup réfléchir. Je reviens quand même sur saint Augustin. Quand il écrit « Soyez dans la crainte et tremblement mes frères, car Dieu opère en vous le vouloir et le faire selon ses bienveillants desseins », c'est donc Dieu qui décide du salut.
Ce que vous citez là, c'est Philippiens 2. C'est donc encore plus d'autorité que saint Augustin. Dieu opère en nous le vouloir et le faire. La capacité de réponse nous est donnée par Dieu. Néanmoins, notre liberté est réelle. elle n'est pas, nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Et c'est peut-être là que le fameux Tsimtsum a quelque chose de tout à fait essentiel à nous dire, parce que cet octroi par Dieu de la capacité de répondre, bien qu'il opère en nous le vouloir et le faire, suppose de la part de Dieu un renoncement à être souverain devant les libertés qu'il a créées, un risque qu'il prend, un risque qu'il assume. Donc on peut à la fois dire Dieu opère en nous le vouloir et le faire au profit de ses bienveillants desseins, comme le dit Philippiens 2, et dire que dans ce vouloir et le faire où Dieu est pleinement à l'œuvre, eh bien, nous sommes néanmoins pleinement libres, si bien que nos actes sont à 100% les actes de Dieu et à 100% nos propres actes, pourrait-on dire. Ça a été très approfondi dans le document d'accord sur la justification qui a été signé à la fin du siècle dernier, en 1997 ou 98, je ne sais plus, 99, entre les luthériens et les catholiques, parce que c'était un des points de clivage qui avait séparé au XVIe siècle. Et dans ce texte, nous sommes arrivés à l'évidence que nous essayons d'exprimer la même conviction avec un vocabulaire différent et avec des points de départ distincts. L'accord d'Augsbourg, puisque le désaccord avait été scellé à Augsbourg, l'accord a été scellé à Augsbourg aussi.
Très bien, je vous remercie. Je me permets quelques interventions. D'abord, je voulais moi aussi vous te remercier. Je craignais, et peut-être n'étais-je pas le seul à craindre, que le sujet que j'ai proposé, sauver, ne s'enferme dans le religieux. Eh bien, je crois que tu nous as, vous, Monseigneur, et toi, cher Jean-Pierre, vous nous avez montré que, eh bien, à partir du religieux, on pouvait poser des questions qui ont une portée bien plus vaste que religion ou qu'une conception étroite de la religion pourrait laisser penser. Par exemple, l'idée d'une universalité du salut, ce qu'il y a là derrière, c'est l'idée de l'unité de l'humanité. Est-ce qu'il y a des catégories privilégiées qui seraient sauvées parce que sauvables, ou tout le monde est-il embarqué ? Pour citer un peu Pascal. Rahim Korsia a cité le Talmud. Alors je suppose qu'il se référait à Sanhedrin 10, donc au dixième chapitre de Sanhedrin, qui s'appelle traditionnellement Chélek, c'est-à-dire la part qui est réservée au salut. Or, Sanhedrin 10 ne dit pas du tout tout homme a part au salut, mais tout Israël. Et d'ailleurs, c'est pour ajouter immédiatement, tout Israël a part au salut, sauf, et vient ensuite une liste de gens qui en sont exclus, et à partir duquel des gens comme Maïmonide ont pu proposer ce qui n'existe que d'une manière tout à fait exceptionnelle dans le judaïsme, à savoir quelque chose comme une dogmatique, des choses auxquelles il faut croire, pour mériter, alors il ne dit pas le salut, mais enfin le monde qui vient. Bon. Et cette question de l'universalité du salut, c'est aussi celle que pose l'idée d'humanitarisme dont il a été question dans la question d'Alain Besançon. Le propre de l'humanitarisme, c'est une conception de l'universalité de quelque chose comme un salut, même si c'est un salut tout à fait séculier,
l'universalité, sauf, sauf le prochain. Je fais allusion à la notion de philanthropie télescopique qui fournit le titre, qui fournit à Charles Dickens le titre du chapitre 4 de Bleak House, où il y a une, un personnage féminin, j'ai oublié son nom, qui aime beaucoup les Africains, mais qui, envers les membres de sa famille, est une véritable Tati Daniel, pour les gens qui ont vu le film. Bon, donc, personnage d'ailleurs typique du 19e siècle, puisqu'il y en a un comme ça au début des frères Karamazov. Cette dame qui dit que plus elle aime l'humanité, moins elle peut souffrir son prochain. Donc ça, c'est peut-être le propre de l'humanitarisme, de privilégier plutôt l'amour du lointain plutôt que l'amour du prochain, même si dans la Bible, « réa » ne veut pas dire le plus proche, mais simplement le contribule. Bon. L'idée de prédestination, dont il a été également question, n'est pas une idée exclusivement chrétienne. Ça, c'est une des croix, enfin, le terme est évidemment très très maladroit, de l'islam. Les Mu'tazilites aimaient raconter, enfin, aimaient exposer ce cas insoluble des trois hommes, l'un qui a vécu toute une vie de probité et qui donc va au paradis, l'autre qui, au contraire, a été très méchant et qui grille en enfer, et puis le troisième qui est mort dans son enfance, n'est-ce pas, qui est tout jeune, avant d'avoir pu assumer une responsabilité quelconque. Et alors celui qui est mort très jeune demande « Pourquoi m'as-tu fait tuer ? M'as-tu fait mourir si jeune ?» Et Dieu lui répond « Parce que si tu avais atteint l'âge adulte, tu aurais commis d'horribles péchés et j'aurais été bien obligé de t'expédier en enfer. » Ce à quoi celui qui a vécu longuement dans le péché lui dit « Pourquoi tu ne m'as pas tué, moi ?» Bon, et c'est là-dessus que le mu'tazilisme a fait échopper la doctrine habituelle de la prédestination. Pour rester à l'islam, le retour du Christ en islam, son retour ou sa venue le fait qu'il s'agisse du second prophète après le sceau des prophètes, après Mahomet, alors évidemment il revient aussi, mais c'est aussi c'est même peut-être surtout pour désavouer les chrétiens et pour leur dire mais pourquoi avez-vous pu me prendre pour un dieu, je ne suis qu'un serviteur comme vous, donc oust, dégagez et allez en enfer. Bien, l'idée d'un dieu qui se repli, si je puis dire, en bon ordre, sur lui-même, pour laisser la place à la liberté de sa créature, c'est effectivement une idée très profonde qui a été illustrée, Rahim l'a rappelé, par la cabale de Safed, Isaac Luria au premier rang, et qui se trouve chez Méthode d'Olympe, n'est-ce pas, un père de l'église grecque, non pas sous le nom de Tsimtsum, puisqu'il ne connaissait pas un mot d'hébreu, mais sous le nom grec de Systolé. Et je crois qu'il s'agit là d'une intuition assez remarquable qui va dans le sens de ce qui, dans l'Épître aux Philippiens, le même chapitre que celui que Monseigneur Battu a cité, est décrit sous ce que l'on appelle la kénose, n'est-ce pas, Dieu qui se vide de sa propre divinité pour prendre figure de serviteur. Et je crois que ça peut aider à penser une conciliation éventuelle de la puissance divine et de la liberté humaine. Alors, je ne sais pas si ces petites contributions, je suis incapable de poser une question, je ne l'ai jamais su, donc je me permets simplement de contribuer mon obole.
Je n'ai rien de particulier à ajouter.
Monseigneur, si vous m'autorisez à prendre votre part de parole pour expliquer à notre bon président que Isaïe, chapitre 56, dit bien « Paix, paix, shalom, shalom, la rachok velakarov » pour le lointain avant le proche, pour le lointain et pour le proche. C'est dans cet ordre-là que ça se passe chez Isaïe. Et donc, je peux te dire que lorsqu'il y a effectivement dans Sanhedrin « Kol Israël yeshem chelek lamba » tout Israël à part au monde futur, c'est que nous, on n'a pas vocation à imposer notre mode d'accession au monde futur à l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité est géré par le respect ou non des sept lois noachides. Et donc, une fois qu'on est dans cette logique de loi, de règles, alors il n'y a pas d'enjeu de foi.
Très bien, je suis heureux de cet accord. Bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions... je déclare la séance levée, mais je vous rappelle que nous devons tenir comité secret qui devrait être assez bref. Nous avons le quorum, nous l'avions dès le début d'une certaine façon. Donc je vous remercie infiniment.